Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mardi matin est Alexis Bouchard, il est secrétaire national des Jeunes Socialistes et il est avec nous en direct au micro de la matinale pour commenter l'actualité politique. Bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors l'actualité politique, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. On va parler aussi évidemment de l'actualité du Parti Socialiste. Il y aura peut-être des grandes manœuvres en cours. Allez, on va en dire un petit mot tout à l'heure. Mais j'avais envie de commencer sur le bilan de la marche du 22 mars. Il y avait cette marche contre le racisme. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette marche en amont avec ces affiches qui ont été produites par LFI qui ont créé la polémique. Affiches où l'on voyait l'animateur de télévision Cyril Hanouna qui n'était pas forcément sous son meilleur jour. Affiches qui ont d'ailleurs suscité une vague d'indignation considérées comme antisémites, ces affiches. Ça n'a pas empêché le PS d'aller à cette marche et de participer. Est-ce que il y a, je vais dire, un petit peu de rupture dans l'air entre LFI et le PS, ne serait-ce déjà qu'autour de tout ce qui se passe actuellement avec LFI?
Eh bien, d'abord, moi, j'aimerais rappeler que la marche du 22 mars, elle était une marche réussie, puisque de nombreuses et de nombreux citoyens se sont mobilisés à l'appel de plus de 500 organisations, effectivement, pour marcher contre le racisme, contre la montée du racisme et contre aussi les idées néofascistes d'extrême droite, puisque on considère que non, la vague brune ne doit pas submerger le pays et que non, puisque François Bayrou va bientôt présenter un débat sur l'identité, que nous sommes prêts à y participer, nous en tant que socialistes, nous en tant que citoyens de gauche, bien pour dire que la France, c'est une certaine idée de l'universalisme, de l'humanité et de solidarité depuis les Lumières qui font que notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité continue et perdure à travers les siècles. Et donc, nous serons prêts pour porter ce débat, pour dire que non, la montée du racisme et tout ce que essayent de faire monter les réactionnaires comme idée nauséabonde pour diviser les Françaises et les Français, tout ça, effectivement, sur une base, une haine raciste, eh bien, ce n'est pas une idée que l'on fait de notre France, de cette France-là qui existe depuis la Révolution et depuis le XVIIe siècle. En ce qui concerne LFI, puisque vous me posez la question, moi je considère que si on était d'accord sur tout, on serait depuis la nuit des temps dans le même parti, et qu'effectivement il y a bien des différences, en tout cas de méthode, sur l'approche d'aborder la manière de faire de la politique et surtout de porter nos idées, et en tout cas sur une certaine forme de stratégie politique aussi, là où nous avons des divergences. LFI considère qu'il faudrait taper sur sa gauche pour espérer augmenter l'électorat de gauche, en tout cas j'imagine son électorat à lui-même, puisqu'on sait très bien pertinemment que Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà en campagne électorale pour la présidentielle de 2027. Or, nous disons que la gauche, elle doit être en capacité de gagner en 2027. Or, on sait que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Donc, nous militons pour une union large de la gauche, mais une union large sur des idées claires. Et donc, cette marche contre le racisme, elle était contre tous les racismes, y compris contre l'antisémitisme. C'est ce que le Parti Socialiste et les Jeunes Socialistes ont rappelé lorsqu'ils ont appelé à marcher pour cette manifestation, et c'est ce que nous avons rappelé dans les cortèges, puisque moi en l'occurrence j'étais à Rennes, il y avait une foule nombreuse et c'était très bon enfant, contrairement à ce qu'on a pu entendre ou dans des cortèges ailleurs en France. Mais en l'occurrence, nous avons marché contre tous les racismes, donc contre l'antisémitisme également, contre l'islamophobie, parce qu'on sait que la haine anti-musulman aussi augmente partout en France, et c'est tout simplement pas acceptable. Et donc effectivement, s'il y avait une différence avec LFI, c'est sur cette approche, sur ces méthodes où nous on considère qu'il ne faut pas taper sur la gauche, il ne faut pas diviser les Françaises et les Français en communautés, en les catégorisant et en les essentialisant en fait à ce qu'ils sont. Nous considérons les Français tels qu'ils sont, comme Français, et nous essayons d'effacer, en tout cas d'apporter des réponses aux inégalités entre les Françaises et les Français par le biais des inégalités économiques par ailleurs, sur le pouvoir de vivre, sur tout plein de choses qui effectivement concernent les minorités, mais en l'occurrence ce n'est pas en divisant les minorités entre elles qu'on va parvenir à rassembler et surtout faire battre l'extrême droite.
Avec là aussi donc ce débat, vous y faisiez référence, voulu par le Premier ministre, c'est une bonne idée de débattre, de libérer la parole, que les Français puissent, les Français ou les partis politiques en l'occurrence, puissent se parler, puissent essayer de se comprendre à défaut de marcher dans le même sens.
Alors moi, je ne suis pas un grand supporter de François Bayrou, vous l'aurez remarqué, mais en l'occurrence, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que le sujet de l'identité nationale, de peut-être l'immigration, on verra ce qu'il en est des détails de ce débat.
Hein. Faut peut-être désamorcer justement à travers un
sera
débat.
Sera évidemment à désamorcer, mais surtout ne sera plus vu sous le prisme de l'extrême droite. C'est-à-dire que là, on a l'opportunité pour toutes les formations républicaines, et j'en appelle aux formations républicaines de gauche, de se saisir de ce débat pour créer véritablement une alternative au discours qui nous est fait par l'extrême droite et la droite extrême depuis des décennies, pour dire effectivement que la France, l'identité de la France, c'est une France issue de la Révolution, des Lumières, et que ces idées de solidarité, de liberté, de fraternité, comme je disais juste au début, c'est une idée de la France qui est complètement omise par l'extrême droite, qui déverse un agenda, en tout cas une haine raciste, pour satisfaire son agenda politique de division des classes populaires notamment, mais ce n'est en aucun cas une idée de la France telle qu'elle est historiquement, la résistance, le général de Gaulle, tous ces gens se sont unis dans un moment de l'histoire récente, on pourrait le penser, contre la montée de l'extrême droite, contre le régime de Vichy, et donc tous les héritiers, en l'occurrence, enfin tous les pères spirituels de l'extrême droite actuelle telle qu'on la connaît. Et donc c'est bien là où on doit se saisir du débat pour justement rappeler l'histoire, tout simplement, pour ne pas commettre les erreurs. On dit lire l'histoire pour ne pas commettre les erreurs, mais là, on n'a jamais été aussi proche de cette nécessité absolue de le faire. Et donc, la gauche, en responsabilité, doit se saisir de ce débat. Et ça peut être une opportunité, encore une fois, pour aller chercher de nouveaux droits, pour plus de solidarité, pour faire en sorte qu'en France, le vivre ensemble soit une réalité.
Avec un déplacement remarqué, celui de Jordan Bardella en Israël, à l'invitation du Premier ministre israélien, avec également Marion Maréchal qui l'accompagne dans ce déplacement. Est-ce que ça vous choque finalement, cette normalisation, permettez-moi le terme, du Rassemblement national, normalisation et reconnaissance quelque part, par une part de la communauté juive ?
Non, ça ne me choque pas parce que on le voit bien depuis maintenant des années, le phénomène de banalisation du RN est bien ancré dans le paysage politique et qui plus est depuis quelques mois, quelques années, effectivement dans le paysage international. On parlait de l'international fasciste qui se met en place depuis notamment l'élection de Trump où on a vu tous les oligarques, tout plein aussi de diplomates et de femmes et hommes politiques d'extrême droite se presser au pupitre de l'investiture de Donald Trump. Marine Le Pen par ailleurs a l'habitude d'aller voir des dictateurs en Afrique. Là, Benjamin Netanyahou, qui est quand même à la tête d'un gouvernement d'extrême droite, on va pas dire qu'on est étonné de le voir inviter Marion Maréchal et Jordan Bardella. Donc, ce qu'il faut que nous, on se dise, c'est que pour enrayer cette montée de l'extrême droite qui s'internationalise, il faut faire bloc. Et il faut faire bloc avec toutes les forces progressistes de gauche et républicaines partout à travers le globe. Moi, en tant que membre du Parti Socialiste, je suis membre de l'International Socialiste. On n'en parle pas assez. C'est se ressaisir de toutes ces instances, de tous ces moyens pour effectivement permettre à ce qu'on parle de l'actualité sous un autre prisme. Et effectivement, Pedro Sanchez, président, en tout cas Premier ministre de l'Espagne, président de l'International Socialiste, donc quelque part un petit peu mon chef sur les questions internationales, si je peux le dire ainsi, lui, il porte une alternative sur l'actualité internationale. Il va opposer au discours de Jordan Bardella, Marion Maréchal et Benjamin Netanyahou sur la question du Proche-Orient, la reconnaissance d'un État palestinien, l'arrêt de l'importation d'armes pour Israël ou la reconnaissance d'Israël par l'Union européenne. Tous ces leviers diplomatiques qui permettront peut-être d'avoir une paix durable, en l'occurrence au Proche-Orient, et qui permettent, en l'occurrence, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, un cessez-le-feu immédiat et permanent pour empêcher à ce que, effectivement, des civils, notamment sur la bande de Gaza, puissent être tués sans vergogne. Et donc, nous, ce sont toutes ces propositions, tout ce que nous portons avec l'International Socialiste, il faut élargir cela, peut-être, en tout cas, faire en sorte que toute l'international progressiste, républicaine et pacifiste, quelque part, puisse aussi s'écouter, se parler et parler d'une même voix.
Avec ces bruits de bottes, ces bruits de guerre, ce langage guerrier, on entend parler de réarmement, on entend également parler d'économie de guerre, et puis Donald Trump, voilà, vous avez prononcé son nom plusieurs fois, Donald Trump et sa politique, une politique qui qui quand même interroge, alors au niveau international évidemment, on a compris que c'était une politique économique très agressive, une politique aussi un petit peu à la manière d'un empire, voilà, on a vu ses vues sur le Groenland, il lâche pas le morceau, on l'aura compris, voire même sur le Canada, qui parle maintenant de se défendre, je ne pensais pas dire ça un jour au micro de la matinale de Bretagne 5, et puis il y a la situation américaine, parce que les Américains vont souffrir, on l'aura compris, avec une politique économique très particulière, avec des coupes budgétaires pour faire, là encore, des économies, mais on l'a vu, la suppression, par exemple, du ministère de l'Éducation. Alors, c'est pas aussi clair que ça, on est dans un système fédéral, mais voilà, il y a quand même ces coupes qui vont vers l'éducation, qui vont vers la possibilité des Américains d'avoir des services pour leur permettre de mieux vivre. Est-ce que c'est inquiétant, finalement, cette espèce de politique bulldozer ?
C'est inquiétant, d'autant plus qu'on dirait que c'est une politique incompétente, puisqu'on s'en rend compte maintenant, puisqu'on a un petit peu de recul, quand bien même il est assez court, que la Cour suprême des États-Unis commence à retoquer un certain nombre de décrets, en l'occurrence pas mal pour tout dire, de décrets que Donald Trump a signé quand
les
il est arrivé.
Les fameux décrets qu'il signe avec son crayon.
En investiture. Donc on se dit, bah, il y a peut-être de l'espoir dans effectivement ce qu'on a conçu dans la séparation des pouvoirs, de ce que effectivement la Cour suprême peut garantir comme garde-fou d'un certain nombre de droits et de garantie que l'état de droit puisse aussi perdurer, y compris même aux États-Unis, quand bien même ce n'est pas parfait. Mais effectivement, on pourrait se dire que bah là, il y a peut-être l'espoir d'un dernier rempart, effectivement, à tout ce que l'extrême droite pourrait mener, en l'occurrence.
Il est fragile, ce rempart.
À grande échelle, il est fragile. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'en France, en Europe, dans nos démocraties, on doit pouvoir aussi permettre à garantir bien une justice efficiente et surtout un conseil constitutionnel fort, et en l'occurrence bien indépendant. La nomination récente de Richard Ferrand, pour ne pas trop dévier, mais en l'occurrence, pose question parce qu'effectivement, Richard Ferrand a un engagement politique connu et de longue date. Et donc, moi, je considère que au Conseil constitutionnel, je vois pas pourquoi des hommes politiques, en l'occurrence, pourraient nommer d'autres hommes politiques. C'est bien le fait que des hommes politiques siègent dans ce Conseil constitutionnel qui pourraient poser problème.
Il
pourrait y avoir des intérêts. Moi, je pense qu'il faut garantir l'indépendance de la justice, l'indépendance du Conseil constitutionnel. Donc, faut s'en tenir à ça. Le président de la République peut nommer quelqu'un au Conseil constitutionnel. Encore faut-il qu'il y ait peut-être de nouvelles règles pour garantir que cette personne-là soit peut-être encore moins sous le prisme d'influence extérieure, d'ingérence ou en tout cas d'intérêt personnel qui pourrait remettre en cause son engagement sincère au sein de cette instance. Mais effectivement, c'est revoir tous ces garde-fous qui permettent à ce que l'état de droit puisse perdurer, puisse être garanti aux États-Unis comme partout ailleurs.
Alors, on a entendu aussi aux États-Unis cette attaque vers les médias. Alors, vers les médias qui parlent à l'étranger, on pense à Voice of America, la Voix de l'Amérique, hein, l'équivalent de notre Radio France Internationale ici en France. Coupes budgétaires, licenciements très brutaux, hein, finalement, et démissions qui ne pourront peut-être plus être assurés. Alors on a entendu ici en France tout un débat autour de l'ARCOM, le régulateur des médias en France, voilà l'autorité de régulation, l'ancien CSA, avec la suppression de C8. Alors vous me voyez venir, est-ce qu'on n'est pas déjà sur un petit marchepied qui pourrait être un appel d'air pour la suite, si d'aventure, justement, on était amené à avoir un gouvernement peut-être d'extrême droite, est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore en supprimant des chaînes de télévision, en ayant ce qui est considéré un petit peu comme une attaque à la liberté de circulation des idées, etc. Voilà, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas dangereux, justement ? Est-ce qu'il faut être prudent là-dessus ?
Bien sûr, parce que l'extrême droite en France, comme elle est incapable de réfléchir, elle porte sur Elon Musk, sur Donald Trump et de tout ce qu'il y a aux États-Unis comme modèle à transposer en France, alors
vous
que les États-Unis.
Vous remarquerez que je vous ai épargné, mais énormément.
Bien sûr, on voit bien qu'il y a une gestion peut-être entrepreneuriale, mais qui ne marche pas, puisque pour prendre l'exemple d'Elon Musk, en l'occurrence, la vente de Tesla de ses voitures est en chute libre. Enfin, toutes les entreprises dans lesquelles il a des parts et des postes à responsabilité chutent complètement, au point même d'en appeler à Donald Trump pour gérer sa propre entreprise. Donc voilà, les États-Unis, en l'occurrence, sont gérés comme une entreprise et nos chers amis Jordan Bardella et Marine Le Pen voudraient peut-être transposer ce modèle en France et en cela, ils préparent effectivement les esprits, vous avez raison, puisque en ouvrant la boîte de Pandore, on déplace aussi la fenêtre d'Overton, des idées qui ne sont pas nécessairement admissible, en tout cas entendable à l'instant T. On en parle pour poser le débat, pour qu'elle soit peut-être dans 2-3 ans, peut-être dans plus longtemps, acceptable. Et donc c'est en cela que l'on doit être très vigilant, parce qu'on ne doit pas considérer que lorsqu'on s'attaque effectivement aux garde-fous qui permettent à ce qu'il y ait une information vérifiée, à ce que la loi soit respectée dans les médias, à ce que l'équité et la représentation politique soient effectives dans les médias, eh bien il faut garantir tout cela, et il faut surtout se rappeler pourquoi en fait on a fait tout ça, et pourquoi tout ça est mis en place. Parce que, eh bien, il faut qu'on garantisse, et que surtout on ne se dise pas dans quelques années que cette idée que commence à semer l'extrême droite soit entendable. Il faut que l'on considère en permanence que, eh bien, pour garantir effectivement l'indépendance du travail des journalistes et de l'information la plus vaste et la plus rapprochée de la réalité soit effective, eh bien, il faut garantir l'ARCOM et tout ce qui a été mis en place pour effectivement permettre cela.
Avec justement le travail des journalistes qui est parfois pointé du doigt par les hommes politiques, là aussi vous me voyez venir, j'allais presque dire avec mes gros sabots comme l'on dit dans ma campagne, mais il y a eu ce déplacement à Brest mercredi dernier du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et s'en est suivi une polémique avec nos confrères du Télégramme qui a dépassé les limites de notre chère Bretagne, polémique autour d'un dessin de Nono. Alors on le salue, Nono, on sait qu'il écoute Bretagne 5 aussi, voilà, et une remise en cause finalement du choix journalistique. Est-ce que ça vous a choqué, les propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon, qui a traité nos confrères du Télégramme de bulletin paroissial, ce qui est assez amusant quand on connaît l'histoire un peu de journal. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que, voilà, là aussi, il faut avoir, je veux dire, une distance entre la presse et les femmes et les hommes politiques?
Oui, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon, tout le monde s'accordera à dire que c'est un homme cultivé. Et qu'en tant qu'homme cultivé, il a certainement un attachement pour une certaine idée de la France, on le disait sur le débat sur l'identité, mais aussi cette idée de la France, c'est une France où effectivement il y a la liberté d'expression comme garantie parmi les droits fondamentaux, et y compris même la liberté pour les journalistes, en tout cas de tenir des éditoriaux, de tenir des positions et des points de vue sur l'actualité, et c'est tout à leur honneur. Et dans ce marasme, effectivement, de montée de l'extrême droite, d'internationalisation des idées fascistes, de mise sous tutelle peut-être des pouvoirs de l'information, de la communication, d'un certain nombre de choses qui permettent peut-être plus tard de faire vaciller nos démocraties, l'idée même de la République, c'est peut-être s'attaquer en tout cela. Et donc, ce que l'extrême droite s'attelle à le faire, il ne faudrait pas qu'à gauche on le fasse. Et donc, il faut garantir effectivement aux journalistes de pouvoir parler, écrire comme ils le souhaitent, tant que c'est effectivement dans le respect de la loi de la République. Et pour cela, je crois que il y a des faits rares de remise en cause de ces faits-là. Donc, je veux dire, les journalistes, ils disent ce qu'ils veulent, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir publier ce qu'ils veulent sans pression extérieure, sans qu'ils soient potentiellement remis en cause ou décrédibilisés par un certain nombre de personnalités de la classe politique. Et en ça, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a fait un pas de côté qui est évidemment condamnable, puisque effectivement ce n'est pas entendable aujourd'hui en République française qu'on puisse remettre en cause la liberté d'expression, la liberté des journalistes de pouvoir écrire ce qu'ils veulent dans leur journal.
Voilà, avec un Jean-Luc Mélenchon qui en son temps a soutenu Charlie Hebdo, voilà, on s'interroge. Et effectivement, on en profite pour rappeler notre soutien ici à Bretagne 5 à nos confrères du Télégramme. J'avais envie de vous entendre sur le Parti Socialiste. Vous allez me dire, vaste programme, il y a beaucoup de grandes manœuvres aujourd'hui, il y a un congrès qui se prépare. Est-ce que Olivier Faure va conserver son poste? C'est la grande question aujourd'hui. Et puis, il y a le terrain. Il y avait ce week-end, samedi dernier, le printemps du souffle breton qui avait lieu à l'IFRE à l'initiative du président de région Loïc Chesnais-Girard. On s'est aperçu que Nathalie Appéré n'était pas là. Alors, ça fait un petit peu parler dans les gazettes. Geste politique ou rien de tout cela?
Moi, je ne parlerai pas pour Nathalie Appéré, je ne la connais pas personnellement, mais y compris moi, en l'occurrence, si je peux transposer la question sur moi, je n'étais pas présent au printemps du souffle breton, parce qu'effectivement, il y avait cette marche du 22 mars contre le racisme et l'extrême droite, et parce qu'effectivement, j'avais un certain nombre d'autres engagements, mais effectivement, on a bien senti qu'au printemps du souffle breton, même s'il y avait une idée peut-être de renouer avec une certaine idée de la social-démocratie, peut-être reparler plus aux syndicats, aux corps intermédiaires, aux associations, en cela, c'était potentiellement une bonne initiative, mais effectivement, dans la temporalité, dans la période dans laquelle nous sommes, et au vu effectivement des invités, des personnalités qu'on a vu défiler à l'IFRE, ce n'était peut-être pas, en tout cas, l'objectif premier. Moi, je considère que, à titre personnel, mais je sais que beaucoup le pensent dans ma famille politique, ce n'est pas en créant de multiples autres petites formations politiques autour de sa personne, pour beaucoup, que l'on parviendra à faire gagner la gauche demain, et que c'est bien en étant, disons, dans une force politique républicaine, en l'occurrence le Parti Socialiste, uni, et surtout nombreuses de ces militants, riches de ces militants et diverses de ces élus partout dans les territoires, que l'on parviendra à dresser un projet qui réponde le plus aux attentes et aux réalités eh bien, de nos territoires, mais aussi de nos concitoyens. Et donc la démultiplication des organisations politiques, de quelque manière qu'elles soient...
Ce sont de nouveaux courants qui se créent finalement.
Je pense plus à diviser qu'à unir, parce que tous ceux qui les créent vous diront « bah non, moi je suis dans le rassemblement, on va unir et tout ». Mais moi je suis pas sûr qu'en réalité, en tout cas, ça a fonctionné, en tout cas à gauche, dans l'histoire récente, dans l'histoire politique récente, pour permettre à ce que la gauche gagne demain. Donc moi, j'entends, je dis qu'effectivement le débat doit continuer, et en cela, Loïc Chesnais-Girard a raison, potentiellement, eh bien, de créer des espaces, mais encore faut-il qu'il soit clair sur ces espaces, parce qu'il disait, il n'y a encore pas si longtemps, que ce n'était pas un parti politique, et j'ai reçu, moi, dans ma boîte mail, il n'y a pas si longtemps que ça, un bulletin d'adhésion, et dans les clauses, effectivement, bah, le souffle breton, c'est devenu un parti politique. Mmh. Donc, qu'est-ce que va devenir cette organisation politique? Est-ce qu'elle a un but final? Est-ce que c'est
l'élection présidentielle? Est-ce que c'est dans les régionales, déjà, on se projette
les régionales, ou peut-être avant, les municipales, les présidentielles, on ne sait pas. Et donc, moi, je considère que le souffle breton, Loïc Chesnais-Girard, a tout intérêt, et surtout toute la légitimité, parce que c'est un camarade aussi, eh bien, de revenir à la maison, de revenir au Parti Socialiste, parce que sa voix compte, parce que des militants aussi pensent comme lui, et surtout serait prêt potentiellement à revenir à la maison en le soutenant et en soutenant sa démarche, mais en l'occurrence on le fait en bonne et due forme, en bonne règle quoi, de bonne guerre, en tranchant effectivement nos idées par le débat démocratique en interne, comme on a eu toujours l'habitude de le faire.
On a eu le sentiment, un petit peu en suivant cet événement, que c'est un petit peu une nouvelle chapelle, un nouveau courant, si vous me permettez, qui se crée au sein du PS, avec une recherche peut-être de majorité, de soutien politique très large, on l'aura compris, voilà, pour les échéances politiques futures, et peut-être pour une certaine idée, je vais paraphraser un président de la République, pour une certaine idée de la Bretagne, une certaine idée de la politique bretonne.
Bah écoutez, oui, peut-être, parce que la Bretagne a su être un laboratoire d'idées, d'abord pour la gauche et plus globalement pour tous ceux qui ont gouverné en France, et en cela, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce que je disais, c'est qu'il faut être clair sur, effectivement, ce qu'on en fait de cette organisation, et c'est en cela que je voudrais être très clair et ne pas dévier ou voilà, lancer une bombe, mais c'est effectivement sur ce qu'on en fait. Moi, je suis toujours pour qu'on ait des espaces d'idées, d'échanges, et c'est tout à fait intéressant parce que ça rentre effectivement dans ce que je disais, dans ce que la social-démocratie dans l'histoire a pu mettre en place, eh bien, pour être au plus près des réalités et des enjeux du monde, en l'occurrence, mais faire attention, prendre garde à ce que, effectivement, elle ne divise pas la gauche, elle ne divise pas le Parti Socialiste dans sa prise de conquête du pouvoir, non pas seulement pour prendre le pouvoir, mais pour véritablement changer la vie, parce que l'extrême droite, on l'a dit et répété au cours de cette matinale, est aux portes du pouvoir, et qu'il convient maintenant, à l'heure où on vient à un an des municipales, à deux ans des présidentielles, en fait, on rentre dans un tunnel électoral où il va falloir être fort, solide, où l'extrême droite ne va pas lâcher, que nous, on va devoir suer sur le terrain pour porter nos idées, eh bien, il va falloir qu'on soit unis pour se soutenir mutuellement et avec un programme clair, effectivement, il le faut, mais c'est dans le cadre du congrès du Parti Socialiste que cela doit se trancher.
Alors là, justement, le congrès, il s'annonce, alors certains disent électrique, d'autres disent compliqué, il y a plusieurs qualificatifs. Il faut changer la vieille maison, il faut bouleverser les choses, il faut aller, ou alors retourner en tout cas vers un électorat que vous avez un petit peu perdu, on peut le dire, l'électorat l'électorat populaire qui s'est tourné précisément vers le Rassemblement National ou plus largement les extrêmes ?
Pour être très clair, en l'occurrence, le changement et le bouleversement qui est opéré au sein du Parti Socialiste, il est en place depuis 2018, depuis qu'Olivier Faure est arrivé premier secrétaire du Parti Socialiste, parce qu'il a fait une rupture, certainement, avec le quinquennat Hollande, en faisant un inventaire de ce qui n'allait pas, et ce qui allait aussi, effectivement, dans ce quinquennat, pour en tirer les conséquences, et pour aller peut-être à l'antinomie de ce qui a été fait, pour ne pas reproduire les erreurs passées, toujours se rappeler de l'histoire pour ne pas reproduire les erreurs. C'est peut-être le fil rouge de cette matinale, mais c'est symptomatique. Et moi, effectivement, dans ce congrès, je considère qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et que le changement, il est là, et il continue de s'opérer, parce qu'Olivier Faure et ses équipes, effectivement, ont su le faire, et ont su le faire dans une stratégie gagnante, puisque depuis 2018, nous avons un nombre de députés qui a plus que doublé. Nous avons un groupe au Parlement européen renforcé. Nous avons au Sénat la première force de gauche au Sénat, dans une assemblée qui est certes conservatrice et assez difficile à faire basculer, mais tout de même, notre voix y porte. Nous avons récupéré, en l'occurrence, conquis des mairies en 2020, dans une vague où on prédisait assez peu des socialistes en termes de victoire électorale.
On les disait morts, les socialistes, pardonnez-moi.
Bien sûr, et en fait, c'est en cela qu'Olivier Faure a réussi son pari. On nous disait morts dès 2017, en fait, après le quinquennat Hollande, et en fait, forcément, c'est de constater qu'on est une force incontournable dans ce pays, la première force de gauche, même si effectivement la technologie des plaques fait que tout bouge et que l'électorat de gauche n'est dans le giron de personne, mais en l'occurrence la confiance elle est là, elle remonte et on doit être très vigilant vis-à-vis de ça, on doit être toujours dans une posture d'humilité et ce n'est pas en multipliant les candidatures, les courants et les égos, parce qu'on arrive dans la pré-campagne des présidentielles, c'est ça qui se joue, que l'on parviendra à reconquérir cet électorat de gauche que nous avons perdu et en l'occurrence à rassembler surtout les Français parce que c'est ça qui se joue dans la présidentielle, c'est pas rassembler seulement la gauche, c'est rassembler aussi les Français parce qu'il y a un second tour et au second tour il faut faire 51%. Et donc cette démarche, cette prise de d'énergie que nous avons depuis 2018 avec Olivier Faure, eh bien il faut la faire perdurer et c'est en cela que moi je le soutiens pour le congrès de Nancy puisque ce sera à Nancy, le congrès de Nancy en juin 2025.
Voilà. Un petit détail aussi, il y a LFI. Est-ce que le Parti Socialiste, la question est un peu volontairement provocatrice, il nous reste une minute, donc il va falloir faire très vite, mais est-ce que le Parti Socialiste peut finalement se passer d'LFI et peut, franchir le cap et peut-être reconquérir son électorat et peut-être retrouver le pouvoir.
Eh bien, pour faire court, puisque c'est l'enjeu du congrès, nous, on voulait faire de ce congrès un congrès de rassemblement et un congrès d'idées pour préparer le projet de 2027. Mais au vu, effectivement, du nombre de candidatures qui ont l'air de vouloir se presser au portillon, ça va peut-être tourner, je n'allais pas dire au vinaigre, même si c'est ce qu'on a l'habitude des congrès du Parti Socialiste, mais en tout cas, tourner effectivement à un congrès de personnes et un congrès de personnalités. Et ce qui va se jouer, c'est effectivement cette alliance ou non avec LFI, peut-être. En l'occurrence, c'est ce qui va ressortir des débats. Nous, ce que nous disons avec Olivier Faure, c'est qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon va être candidat à la présidentielle. Et qu'en cela, il faut l'acter et ne pas s'éterniser à vouloir le ramener dans le giron d'un potentiel rassemblement, ce que nous, on porte initialement. Mais on doit, avec toutes les forces insoumises, y compris même des François Ruffin, des Clémentine Autain, des Alexis Corbière, des Raquel Carrido, et tout plein de militants insoumis sincères et parfois proches de Mélenchon, qui considèrent maintenant que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, eh bien, sa stratégie n'est pas nécessairement gagnante, parce que ça fait trois fois qu'il l'a fait, et trois fois, il n'est jamais parvenu à faire que la gauche se qualifie au second tour d'une présidentielle. Eh bien, nous, on va commencer un travail de rassemblement avec ces gens-là, mais avec aussi les écologistes, les communistes et toutes les forces de gauche qui le souhaiteront, pour avoir, dès le premier tour, un candidat commun pour permettre à ce qu'il y ait cette qualification au second tour indispensable pour effectivement battre l'extrême droite qui sera, on le sait certainement, malheureusement, déjà qualifiée pour le second tour. Et donc, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est que la gauche soit rassemblée et qu'elle surtout se qualifie au second tour parce que seule la gauche pourra battre l'extrême droite en 2027.
Une période politique qui souffre, qui va être passionnante, en tout cas pour les femmes, les hommes politiques et pour les journalistes aussi, il faut bien le dire. Alexis Bouchard, secrétaire national des Jeunes Socialistes, était avec nous ce matin pour balayer l'actualité politique. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.